Tout de suite, les petits bateaux. Noël Bréham, bonne soirée.
Bonsoir, comment allez-vous? France Inter nous parlait cette semaine de la montre connectée pour enfants. Elle fait aussi téléphone. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là où ça gratouille, c'est que si le petit ne répond pas, la montre peut se mettre en mode écoute. Et donc, le parent peut entendre ce qui se passe autour de son enfant et surveiller, entre autres, ce que disent les enseignants. En Allemagne, sitôt sortie, sitôt interdite. On comprend aisément la pagaille que peut mettre un tel objet s'il tombe entre les mains de parents inquiets, intrusifs ou procéduriers. On ne peut en même temps pas s'empêcher de penser que si certains harcelés avaient eu un tel mouchard au poignet, on les aurait peut-être sauvés. Comme l'écrivait Isabelle Kuhn dans Télérama, pourquoi nos sociétés produisent-elles des enfants harceleurs? Là est la question. Si j'apprends que mon enfant est harcelé, je serai abominablement triste et inquiète. Et si j'apprends que mon enfant est harceleur, je serai abominablement triste et inquiète. Le harceleur n'est pas le roi de la cour, c'est un pauvre gosse qui, si on ne fait rien, deviendra un pauvre type qui fait des dégâts. Bon, ben moi qui voulais vous raconter un truc drôle avec la montre connectée, j'ai un peu raté mon coup.
Bonjour, je m'appelle Alain, je voudrais savoir qui a inventé les montres et comment. Merci.
Bonsoir Alain, Bruno Jacomi.
En fait, c'est assez étonnant de voir que les premières montres, elles remontent très très loin, parce qu'en fait, elles sont mises au point par un Allemand qui s'appelait Henlein, et c'est au début du XVIe siècle, hein, c'est en 1510... qu'il y a quelqu'un qui fabrique les premières montres. Mais alors, il ne faut pas s'imaginer une petite montre plate qu'on met au poignet. Hein. On est sur une montre qui est peut-être grosse, presque comme une balle de tennis hein, quand même, qui est sphérique, mais qui, par rapport aux grosses horloges qui existent alors, est quelque chose de portatif. On peut l'avoir sur soi. Et en fait, c'est cette espèce de balle de tennis qui, en s'aplatissant petit à petit, va donner la montre à gousset, que peut-être Alain pourra avoir chez son arrière-grand-père ou son grand-père dans les placards. Quelquefois, on trouve ces montres que l'on attachait avec une petite chaînette, mais qui étaient encore un peu imposantes. Et aujourd'hui, on a encore miniaturisé la montre pour pouvoir la mettre au poignet.
Mais avec le même système, c'est-à-dire un ressort qui se détend, c'est ça l'histoire?
Alors, toutes les montres mécaniques fonctionnent avec un ressort et tous ces systèmes-là, hein, même les petites montres qu'on achète aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on a aussi des montres électriques avec un quartz.
Ah oui,
et ça, c'est pas du tout pareil après à l'intérieur. Il n'y a que l'affichage qui est pareil. À l'intérieur, c'est un quartz qui vibre très très vite et qui va donner une base de temps en divisant cette haute fréquence en un temps beaucoup plus lent, qui va faire varier la grande aiguille seconde par seconde.
Mais le quartz, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Terre?
Effectivement, c'est cette pierre que l'on trouve, mais aujourd'hui, c'est des quartz souvent artificiels, qui ont cette capacité de vibrer quand on leur met un courant électrique. Ils vibrent avec une fréquence qui est parfaitement régulière. Même pour arriver jusqu'à aujourd'hui, les horloges atomiques, elles vibrent encore, mais avec une fréquence encore beaucoup plus élevée, et ce sont des atomes qui vibrent. Mais ce sont ces petites horloges atomiques qui se trouvent sur les satellites qui nous servent à nous repérer quand on a un GPS. On utilise avec le GPS des horloges atomiques qui sont sur des satellites, mais dont on a le résultat tout de suite devant soi pour savoir où on se trouve.
Ah, oh, vous n'avez pas connu l'horloge parlante. Nos grands-parents disaient montre à quartz, c'est drôle. Maintenant, c'est un peu un pléonasme. Bruno Jacomi, nous le connaissons depuis longtemps au petit bateau. Il était au musée des arts et métiers à Paris et puis il est devenu directeur scientifique du musée des confluences à Lyon. Ce soir, dans les petits bateaux, nous saurons s'il fait toujours nuit dans l'espace. Comment a commencé l'aventure des briques Lego? Avec Yves Coppens, nous parlerons des vêtements des hommes préhistoriques. Et tout de suite, une belle question, mais super difficile, que le philosophe Charles Pépin a été bien courageux de choisir.
Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi ou pour quel but les humains existent-ils? Merci, au revoir.
Colline, 9 ans, pourquoi les humains existent-ils? Je suis admirative, Colline, de cette question. Soumise à un philosophe, bien entendu, qui vient d'écrire La joie chez Alary Éditions, Charles Pépin.
Énorme question, Colline. Pourquoi les hommes existent? Je vais vous dire franchement, honnêtement, aucune des réponses n'est satisfaisante. Il y a la réponse parce que Dieu l'a voulu, mais elle ne satisfait pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Il y a la réponse opposée, celle de Sartre, à savoir Dieu n'existe pas, nous sommes là sans raison, et il nous appartient d'inventer le sens de notre existence. Et c'est bien sûr insatisfaisant parce que on va pas inventer totalement le sens de sa vie. Alors il y a ceux qui répondent le bonheur, on vit pour être heureux, mais le problème c'est que il suffit de connaître un peu la psychanalyse pour s'apercevoir que c'est assez faux. Souvent on cherche son malheur de manière inconsciente. Il y a ceux qui disent on vit pour la liberté, mais on s'aperçoit qu'on est quand même parfois très heureux dans la servitude. Il y a ceux qui disent qu'on vit pour la vérité, mais ça ne tient pas la route parce qu'on aime bien s'illusionner. Et il y a ceux qui disent qu'on vit pour le plaisir, ça marche pas non plus parce que s'il y avait que du plaisir, il y aurait plus de plaisir. Donc on trouve pas de réponse satisfaisante. Là, je vous ai un peu résumé 3000 ans de réponses insatisfaisantes en 2 minutes. Mais alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que c'est précisément parce qu'on ne trouve pas de réponse à cette question que la vie est passionnante. Parce que si on avait trouvé la réponse, alors il n'y aurait plus à s'interroger sur le sens de son existence et on serait tenté de mettre ses pas dans la conformité à une réponse, à un modèle d'existence, et ça pourrait limiter justement notre liberté. Je crois que la vie est intéressante parce qu'on ne peut pas répondre à cette question et parce que il nous appartient à chacun de tenter de vivre de manière singulière en honorant sa singularité. Et quelque part, c'est à chacun d'inventer le sens de sa vie. Et justement, le fait de ne pas pouvoir répondre ouvre le champ de cette invention. Alors, il est vrai que c'est ce que Nietzsche appelait le surhomme. Hein. Lorsque Nietzsche disait que nous pouvons tous devenir surhomme, ça voulait dire que c'est à nous d'inventer la valeur de la vie. C'est à chacun d'inventer le sens de son existence. Et je trouve que c'est une réponse qui est assez inspirante.
Donc le tout possible reste tout possible.
Voilà, simplement à chacun de se dire que il lui appartient, dans la mesure de son existence à lui, de répondre à cette question et non pas de recevoir une réponse toute faite.
Charles Pépin est professeur de philosophie. Il a écrit beaucoup de livres. Vous les trouverez sur le site des Petits Bateaux. Son dernier livre s'appelle 50 nuances de grec. Encyclopédie des mythes et mythologies grecques remises à la sauce contemporaine, et c'est édité chez Dargaud. Tu danses ? 1, 2, 3.
His face in a frying pan, combed his hair with a wagon wheel, and died with a toothache in his heel. Get out the way, old Dan Tucker, you're too late to get your supper. Get out the way, old Dan Tucker, you're too late to get your supper. Get out the way, old Nantucker, you're too late to get your supper. Get out the way, old Nantucker.
Et voilà, un tonique Bruce Springsteen choisi par Marjorie de Voucou et Jean-Baptiste Audibert qui fêtait cette semaine la victoire du PSG sur les Écossais. Moi, j'ai une petite tendresse pour les Écossais.
Les petits bateaux sur France Inter.
C'est la première fois que Sébastien Charnoz vient au petit bateau et je dois dire que pour une première fois, on a bien décollé.
Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans et je voudrais savoir pourquoi il fait toujours nuit dans l'espace. Merci.
Sébastien Charnoz, vous êtes professeur d'astrophysique à l'Université de Paris Diderot et puis aussi à l'Institut de physique du globe. A-t-elle raison, Claire ?
Alors, Claire se pose une question qui paraît toute simple. Pourquoi fait-il nuit la nuit, en fait ? Pourquoi fait-il nuit dans l'espace ? Mais en fait, c'est une question qui a agité l'astrophysique et l'histoire des sciences depuis en fait très longtemps. Le premier dont on a la trace qui se pose cette question, c'est Kepler lui-même. Et ensuite, des grands noms en astrophysique se sont posés cette question. Galilée a réfléchi. Et aussi des grands écrivains. Edgar Poe lui-même s'est posé cette question. Et finalement, la réponse à cette question aujourd'hui, on pense la connaître, mais elle fait appel aux dernières théories en cosmologie. Donc en fait, c'est pas du tout évident. Et en fait, il semble avoir un paradoxe. Et c'est peut-être le raisonnement, j'imagine, que se fait Claire. On sait qu'il y a des milliards de milliards d'étoiles dans l'univers. Et même, on ne connaît pas les limites de l'univers. Donc, si on regarde dans n'importe quelle direction du ciel, on a une très très grande chance qu'il y ait toujours une étoile dans n'importe quelle direction que vous regardez dans le ciel. Mais comment se fait-il que si vous regardez dans n'importe quelle direction, que la nuit est noire ? Parce que vous pouvez vous imaginer que, quelle que soit la direction que vous regardez, il y a toujours une étoile devant vous. Alors, il y a un petit calcul qui a été fait au 19e siècle, qui montre tout simplement que si on prend la théorie de la physique classique, tout simplement, en disant il y a des étoiles partout, on s'aperçoit que le ciel devrait être aussi brillant que la surface du soleil.
Ah.
Or, le ciel est noir. Donc, il y a là un paradoxe. Alors, plusieurs hypothèses ont été émises. La première hypothèse qui a été émise, c'est que peut-être, finalement, l'âge de l'univers n'est pas infini. Peut-être que l'âge de l'univers serait fini, c'est-à-dire que la lumière des étoiles voyageant, peut-être qu'il y a des étoiles très lointaines dont la lumière ne nous est pas encore parvenue. Donc ça, c'est une première explication possible. Elle a été proposée, par exemple, par Edgar Poe lui-même. D'autres personnes ont proposé des explications alternatives. Et aujourd'hui, on va dire que ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, le fait qu'il fasse nuit la nuit, c'est une combinaison de plusieurs effets. Premièrement, que l'âge de l'univers n'est pas infini, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles dont la lumière ne nous est pas parvenue. Deuxièmement, le simple fait de dire qu'il y a des étoiles dont la lumière ne nous est pas parvenue implique aussi que la vitesse de la lumière est finie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a que quelques siècles seulement. Et enfin, aujourd'hui, on pense qu'un des effets qui est à l'origine de la noirceur de l'espace, c'est aussi l'expansion de l'univers, qui aujourd'hui est relativement bien établie, même si les origines de cette expansion restent toujours très mystérieuses.
Et vous, Sébastien Charnoz, quel est votre avis, votre option ?
Moi, je suis relativement d'accord avec mes collègues cosmologistes, c'est-à-dire que je leur fais confiance, parce que la cosmologie n'est pas ma spécialité, mais bien entendu, j'ai beaucoup d'admiration pour cette discipline. Effectivement, aujourd'hui, il semble très établi que l'âge de l'univers est entre 13 et 14 milliards d'années, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des structures avec lesquelles on n'a jamais encore communiqué, et aussi l'expansion de l'univers fait que le rayonnement des étoiles est de plus en plus dilué dans l'espace, et ce qui fait qu'il est en moyenne de plus en plus faible. La réponse à ce paradoxe très simple, en fait, en réalité, fait appel à en fait toute une conception de l'univers. Et ce paradoxe, en fait, porte un nom. Il s'appelle le paradoxe d'Holbert.
Comment vous écrivez Holbert, Sébastien Charnoz ?
O-L-B-E-R.
Et c'était qui ?
C'était un médecin allemand de la première moitié du 19e siècle, donc qui a écrit un livre dans lequel il se pose la question de ce paradoxe et propose une solution. En particulier, il propose que l'âge de l'univers soit fini et donc que la lumière des étoiles les plus lointaines ne nous soit pas encore arrivée.
Herr Dr. Holbert. Merci Sébastien Charnoz, professeur d'astrophysique à l'Université Paris Diderot et à l'Institut de physique du globe de Paris. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie de relire Edgar Poe. Vous savez que c'est Baudelaire le premier qui l'a traduit en français.
Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 7 ans et j'aimerais savoir si les briques de Lego ont changé au fil du temps.
Parce que t'es mignonne Justine. Les briques de Lego ont-elles changé au fil du temps ? Vous allez nous expliquer ça, Émilie Carl, puisque justement vous êtes responsable de la communication de Lego France.
Alors Justine, en réalité, pas vraiment.
Ah
les,
bon ?
Les briques n'ont pas vraiment changé au fil du temps, à un détail près. Au tout départ, quand elles ont été créées dans les années 40, en 1949 exactement, les briques étaient à peu près comme elles sont aujourd'hui, mais elles n'avaient pas les petits tenons, ces petits picots sur la brique qui permettent de les emboîter parfaitement et de construire tout un tas de créations solides, de le déplacer, de le faire bouger. Donc la brique telle que tu la connais aujourd'hui, Justine, a été créée en 1958 et n'a pas depuis changé d'un iota.
Ah, ce qui veut dire, Émilie Carl, donc la brique de maintenant a été créée en 1958. Si j'ai une boîte de Lego des années 60, évidemment, il y aura beaucoup moins de choses que dans les boîtes de maintenant, mais c'est compatible.
Exactement, les briques de 1958 sont parfaitement combinables avec les briques d'aujourd'hui.
Ça, c'est top. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Lego depuis ces dernières années?
Alors, par exemple, à la fin des années 60, a été créée une brique beaucoup plus grosse pour s'adapter aux mains des plus petits. On l'appelle la brique Duplo, qui veut dire double, car ses dimensions sont deux fois plus importantes que la brique classique. D'autres briques, par exemple la brique qu'on appelle technique, permet à la brique classique d'apporter un mouvement mécanique, un mouvement de poulie et même de la motorisation pour créer une voiture qui roule, une grue qui déplace des objets, etc. Et même aujourd'hui, la brique est connectée et permet même à votre construction d'interagir avec vous. Par exemple, vous pouvez construire un robot qui a différents petits capteurs qui vous permet de demander à votre robot de dire certaines choses, de faire tel mouvement, de chanter.
Il n'y en aurait pas un qui passerait l'aspirateur, non?
Tu cherches toujours ta famille, tu tues à l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais. Tu veux ce qui te plaît. Paris, c'est trop petit pour toi. Tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague à color. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre. Entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Tu te regardes sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit. Elles ne te laissent jamais seul, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie. Choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent, des nuages pris entre les dents. Tu voudrais partir sur la mer comme les marins de face. Toujours noyé dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es?
C'était Pierre Lapointe. Pour poser une question au petit bateau, vous faites le 01 56 40 43 57. Alors laissez les parents, vos enfants formuler la question comme bon leur semble. On s'en fiche du bonjour, j'étais là, je m'appelle. Ils peuvent la poser absolument dans le sens qu'ils veulent. Parfois on entend souffler derrière, dit ton âge, dit tout, tout, tout. Laissez-les donc tranquilles. Yves Copin nous a fait le plaisir de venir répondre au petit bateau.
Je m'appelle Eve, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir si on a retrouvé des vêtements d'hommes préhistoriques en peau d'animaux. Merci, au revoir.
Oui, bien sûr. Quand on voit les restes humains des temps passés, on les trouve sous la forme de squelettes. Alors évidemment, tout le reste est détruit et on ne sait pas s'ils étaient habillés, déshabillés, un peu couverts. Quand même, ils ont vécu des glaciations où il ne devait pas faire très chaud et où ils s'installaient sous des tentes. Non, pas dans les grottes. Jamais dans les grottes.
La grotte n'était pas un lieu d'habitation.
Non, la grotte n'était pas un lieu d'habitation. C'était plutôt un sanctuaire. Mais souvent, on les trouve à l'abri sous roche, qui est l'entrée de la grotte. Ah oui. Autrement dit, ils tenaient à la lumière. Mais même s'ils ne savaient faire la lumière par ailleurs, ils avaient la lumière du jour. Oui, dans le hall, si vous voulez, dans le hall d'entrée. Mais par contre, dans des milieux très particuliers, comme la tourbe, on a retrouvé des vêtements. Et dans des milieux très secs, comme par exemple le Sahara, on a retrouvé aussi des restes de vêtements. Et puis d'autre part, c'est beaucoup plus récent, mais ça existe quand même, dans les gravures rupestres, et notamment les gravures du néolithique, c'est-à-dire les gravures qui ont... autour de 10 000 années, c'est pas très très ancien. Mais là, ils sont vraiment très habillés et on connaît les vêtements qu'ils portent. Et dans les petites statuettes de la période précédant ce néolithique, qu'on appelle le paléolithique, la période de la pierre taillée, ces hommes discrets que l'on retrouve gravés ou peints dans les grottes, qui sont semi-animaux, semi-humains, ils ont quelquefois des vêtements de peau sur le dos. Enfin, on peut imaginer, en tout cas, qu'ils s'habillaient parce que l'adaptation, c'est bien, mais il faut quand même avoir quelques vêtements pour survivre. Et d'autre part, à partir d'une période qu'on appelle le solutréen, c'est-à-dire une vingtaine de milliers d'années, on trouve des objets, notamment en os, qui sont des aiguilles à coudre, et qui, visiblement, non seulement étaient capables de coudre les vêtements, comme sûrement bien avant, mais étaient capables de coudre des boutons.
C'est émouvant.
Donc, les boutons, on les retrouve ou on ne les retrouve pas, mais on trouve en tout cas les aiguilles à chat, par exemple, qui sont forcément des aiguilles...
Pour assembler des pièces.
Qui ont servi à coudre.
Ils étaient poilus, quand même.
Ils ont été velus à une certaine époque, puisque nous descendons du monde animal. Et leur pelage, on ne sait pas quand le pelage a disparu, pour le moment en tout cas. Moi, je pense beaucoup que la génétique, la paléogénétique, nous éclairera à ce sujet. Mais au bout d'un certain temps, la marche à pied, probablement, qui doit être plus fatigante, et puis... beaucoup plus tard, la taille de l'outil, qui était une nouveauté humaine, ont entraîné la nécessité de transpiration, et la transpiration pour la régulation thermique, la régulation de la température du corps, exigeait en effet l'absence de poils pour que les glandes sudoripares, les glandes de la sueur, puissent se développer abondamment.
C'est intéressant, hein. Yves Coppens, bien sûr, vous le savez, est paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Nous ne nous quittons pas tout à fait, puisque vous pouvez venir sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr et podcaster cette émission. Merci à Jean-Baptiste Audibert, Théo Gomard. Nous commençons par les hommes. Aujourd'hui, Marjorie Devoucoux, Noël Bréham. Je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu.